Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez juste après VibraSOS Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informés de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, vous nous écoutez sur la bande FM 94.9 pour ceux qui habitent l'Aisne, l'Oise, la Somme. Mais partout ailleurs, vous nous écoutez bien sûr sur graphite.net en direct ou en différé parce que vous avez eu l'ingénieuse idée de récupérer les podcasts. Et puis maintenant, depuis plusieurs semaines, vous nous suivez en direct sur Facebook Live. Bienvenue à ceux qui nous suivez sur Facebook. Juste après VibraSOS, voilà, on vous accompagne ce samedi pour vous tenir informés un petit peu ce qui se passe dans le monde et essayer voilà, de comprendre un petit peu les avancées technologiques et médicales. On va aborder de pas mal de sujets. On va parler un peu de tout aujourd'hui, il n'y a pas de thématique commune et c'est tout l'intérêt. On va parler de tout sauf du coronavirus et ça va nous faire un bien fou, je pense. Nous sommes le 6 février. Au niveau de l'éphéméride, le 6 février 1800, donc il y a déjà quand même un certain temps, Alessandro Volta invente quoi ? Volta, oh ça nous dit quelque chose. C'est lui qui invente la pile électrique à base de cuivre et de zinc. Ça date de 1800 quand même la pile électrique, mine de rien. On ne pensait pas quand même que c'était aussi loin. Plus proche de nous, c'est en 1971, Alan Shepard, il joue au golf, il se détend, il a tellement raison, ça doit être sympa de jouer au golf. En fait, il ne joue pas n'importe où, lui, il s'est dit, je vais jouer sur la Lune. Et c'est ce qui s'est passé le 6 février 1971, ça se passe sur la Lune, il joue au golf, Alan Shepard, et il y a des images qui existent, vous les avez peut-être déjà vues. En 1995, c'est le premier arrimage spatial entre la navette Discovery et la station Mir. Mais oui, années 90, la station Mir. Le lieutenant-colonel Collins, qui est la première femme pilote de navette spatiale, est aux commandes. Et c'était en 95. Enfin, il y a 3 ans, le premier vol réussi pour le lanceur Falcon Heavy de SpaceX, qui met en orbite la voiture Tesla Roadster d'Elon Musk. C'était il y a 3 ans et on en avait parlé dans cette émission, bien évidemment. Que s'est-il passé au niveau de l'éphéméride ? Qui est né un 6 février ? Eh bien, en 1695, c'est Nicolas Bernoulli, qui est un mathématicien suisse. Alors, en fait, Bernoulli, pour ceux qui ont fait des études scientifiques, et notamment des études de maths, c'est un nom qui évoque quelque chose. C'est en fait aussi une grande famille, Bernoulli. Donc, lui, Nicolas, il a travaillé principalement sur les courbes, les équations différentielles, miam, 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 et les probabilités, génial. Il a également contribué à la dynamique des fluides. Nous sommes au XVIIIe siècle. Il est mort jeune. Il est mort à 30 ans, à peu près, à Saint-Pétersbourg. Mais en tout cas, il est né un 6 février, Nicolas Bernoulli. Décès en France en 1833, un 6 février, hein, toujours, celui de la mort de Pierre-André Latreille, qui est un entomologiste français. Entomologiste, ce sont ceux qui étudient les insectes. Il publie son premier ouvrage important en 1796. C'est un précis des caractères génériques des insectes et il travaille au Muséum national d'histoire naturelle. Et son travail, à la fois sur la systématique et la taxonomie des arthropodes, c'est-à-dire que certaines catégories d'insectes, il les a classifiés. Ça lui vaut le respect et aussi de nombreux éloges, et notamment le fait que Georges Cuvier lui demande d'écrire le volume sur les arthropodes de son œuvre monumentale sur le règne animal. C'est la seule partie qui ne soit pas écrite par Cuvier, elle a été écrite par Pierre-André Latreille, dont on célèbre aujourd'hui la mort le 6 février 1833. Latreille est considéré comme l'entomologiste le plus important de son temps et il est décrit par l'un de ses élèves comme le prince des entomologistes, Latreille. Cuvier est un nom qu'on connaît un peu plus, oui effectivement, Latreille un peu moins et c'était l'occasion aujourd'hui pour cet éphéméride d'évoquer son nom. Voilà, bienvenue sur Graphite. Je vous avais parlé de leur démission en direct de la semaine dernière. Comme c'était une émission assez mouvementée, on a parlé pas mal de choses. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer le dernier article que j'avais prévu et je vous l'avais promis pour aujourd'hui. Cet article sur des briques. des briques qui peuvent stocker l'électricité. Il y a des milliers d'années qu'on les utilise, bien sûr, ces briques pour construire nos maisons. Et bien aujourd'hui, il y a des chimistes de l'Université de Washington qui affirment qu'elles pourraient aussi servir à autre chose. Ils ont en effet fabriqué une sorte de ce qu'on peut appeler une brique augmentée. Elle serait capable de stocker suffisamment d'énergie pour alimenter des lampes, des petites LED, le tout à partir d'une banale brique qui coûte pas plus de 55 centimes d'euros la brique. C'est vrai que finalement, on est à la fois sur une innovation technologique et sur un coût moindre. Et donc, pour en arriver là, les chercheurs ont développé un revêtement particulier qu'on appelle un PEDOT. C'est en fait un polymère conducteur. Et du coup, ce polymère, il va pouvoir pénétrer dans la structure de la brique. La brique, elle est assez poreuse, sa structure est assez poreuse. Et du coup, le polymère, il va pouvoir s'infiltrer là-dedans et il va se retrouver un peu emprisonné. Et quand on va pouvoir connecter ces briques à des panneaux solaires, eh bien, ces fameuses briques, elles pourraient suffisamment stocker d'électricité pour alimenter un éclairage d'urgence pendant 5 minutes, ce qui est quand même pas mal. 5 heures, pardon, c'est encore mieux. 5 heures, oui, un éclairage d'urgence de 5 heures avec quelques briques, une cinquantaine de briques comme ça. C'est vrai que ça peut être intéressant. Un autre avantage, c'est que ce mur de briques, du coup, il peut être rechargé des centaines de milliers de fois, ce qui est intéressant, parce qu'effectivement, si on met des briques et qu'elles ne servent qu'une fois, ça ne sert à rien. Là, on est dans un exercice justement de recharge automatique. Et ça peut à la fois être aussi avec des briques neuves qu'on aura donc construites et utilisées, mais on va aussi pouvoir recycler ces briques. Si on détruit le mur pour X raisons, on va pouvoir récupérer ces briques et pouvoir les recycler pour pouvoir construire un autre mur. On nous annonce donc en juin de cette année, donc dans quelques mois, qu'il y aurait la possibilité justement de pouvoir travailler sur la performance de ces briques. En fait, on va utiliser des supercondensateurs à partir d'oxyde de fer. L'oxyde de fer, c'est la rouille en clair. Et c'est ce qui donne aussi un peu cette couleur rouge aux briques. Et donc, leur réalisation présenterait donc des performances en termes de conductivité électrique, en termes de densité d'énergie, les plus élevées de la littérature quand on parle de polymère. Donc, c'est vraiment une performance technologique intéressante. Et on a donc, on obtient des résultats qui sont assez prometteurs pour ces briques qui vont pouvoir stocker de l'électricité. Alors pour l'instant, on est au stade du prototype. L'idée, évidemment, c'est de pouvoir aboutir à un stade un petit peu plus industriel. Et on ne le sait pas encore pour l'instant. On n'a absolument pas de calendrier qui a été fourni. Mais en tout cas, l'une des choses importantes qu'il faut aussi retenir de cette information, c'est l'idée de stockage d'électricité. Ce qui est tout le défi des années futures. On parle de transition énergétique, évidemment. On parle d'énergie renouvelable. Mais l'un des défis importants va être de pouvoir produire et stocker l'électricité. Et du coup, là, on est sur une expérimentation, bien évidemment, on est sur un prototype, on est dans le cadre d'une étude de recherche, donc on n'est pas dans le développement d'une technologie éprouvée, mais quoi qu'il en soit, on est quand même sur l'idée de pouvoir obtenir des solutions de stockage d'électricité. Ce qui sera le grand défi de ce siècle, les énergies renouvelables, elles ont un intérêt en termes justement du fait qu'on n'utilise pas d'énergie fossile et donc un intérêt dans l'idée du bas carbone. Mais un panneau solaire produit l'électricité quand il fait du soleil, bien évidemment. Une éolienne produit l'électricité quand elle tourne face au vent selon certaines vitesses du vent. Mais s'il n'y a pas de vent, s'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité. Et donc, du coup, essayer de trouver une solution technologique qui va permettre de stocker l'électricité pour pouvoir l'utiliser quand on en a besoin, ça va être tout le défi de ce siècle. Et donc là, on est sur une expérimentation avec des briques qui vont pouvoir stocker de l'électricité et pouvoir alimenter donc un éclairage, je disais, de 5 heures. Donc c'est ça qui est quand même assez intéressant. Ce qui, justement, peut donner quelques pistes en utilisant des matériaux spécifiques. Et là, on est dans le cas d'un polymère conducteur. Voilà, c'est une information que je souhaitais vous évoquer la semaine dernière, qu'on évoque aujourd'hui, parce que voilà, on est aussi dans une avancée assez intéressante au niveau du domaine de l'énergie qui, je vous le rappelle, sera une thématique très importante des prochaines années, bien évidemment, et un vrai défi. L'autre actualité, en tout cas là où on aime bien un petit peu se balader, c'est dans l'espace, bien évidemment. Et on va parler de l'arrivée du rover Perseverance qui va arriver sur la surface de Mars. L'idée, je le rappelle, c'est d'essayer de rechercher des traces de vie anciennes ou actuelles. C'est un événement important, l'un des plus grands moments de cette année 2021. C'est une mission très ambitieuse, tant sur le plan de la recherche, mais également dans aussi l'idée de pouvoir préparer l'installation des premiers êtres humains sur une autre planète, bien évidemment. Donc là, cette décennie 2020, on en parle depuis assez longtemps dans cette émission, c'est le défi aussi de l'espace et de pouvoir aller sur Mars. Et donc là, Perseverance arrive, c'est le super rover qui est à la pointe de technologie. Il est encapsulé dans un vaisseau qui le conduit jusqu'à Mars. Alors, il est en train de se balader paisiblement dans ce qu'on appelle l'espace interplanétaire, à une vitesse quand même assez importante de 85 000 km/h. C'est quand même pas mal, finalement, ça décoiffe un peu. Et on prévoit dans quelques jours, alors les informations nous donnent une date du 18 février, pour que justement la machine puisse atterrir à l'intérieur d'un cratère de Mars qui s'appelle le cratère J0. C'est une destination, bien entendu, choisie de façon très sérieuse. On ne choisit pas ça au hasard par les équipes scientifiques de la mission pour justement avoir l'idée de se dire est-ce que cette zone était habitable par le passé il y a 3 milliards et demi d'années. Ça ne date pas d'hier, bien évidemment. À l'idée, quand il faisait un petit peu plus chaud à la surface de Mars. C'est justement un petit peu la question que l'on souhaite savoir. Et on va donc envoyer ce rover sur Mars dans ce cratère. Et donc, le grand défi technologique, c'est que tous les engins qui veulent toucher le sol de Mars vont devoir, et c'est le cas donc de Perseverance, vont devoir atterrir en douceur. Et l'idée, c'est donc de passer d'une vitesse de croisière, comme je l'ai dit, supérieure à 50 km/h, à une vitesse de zéro. Et ça en très peu de temps. Et c'est vraiment le défi technologique qu'il va falloir relever. La méthode choisie, c'est une méthode qui est celle qui a été employée pour Curiosity en août 2012 et qui a déjà fait ses preuves. Et le moment le plus tendu sera bien sûr celui où la capsule, elle va plonger dans l'atmosphère de Mars jusqu'à atterrir sur le sol quelques minutes plus tard. C'est un vrai, véritable moment crucial pour cette mission, tellement crucial que la NASA appelle cette période les 7 minutes de terreur. C'est dire que justement, le défi va falloir que ces 7 minutes de terreur se passent très bien. C'est en fait le centre de contrôle de Mars 2000 de cette mission et bien sûr le centre de contrôle sur Terre, donc à des centaines de millions de kilomètres de là où ça va se passer. C'est-à-dire qu'il y a une dizaine de minutes lumière, c'est-à-dire le temps de déplacement de la lumière est d'une dizaine de minutes, c'est-à-dire que c'est très loin. Ça veut dire qu'en fait, il faut tout orchestrer à l'avance. Vous ne pouvez absolument pas, de Terre, donner une information en direct et de piloter justement en direct ce rover. Donc tout a été orchestré, millimétré à l'avance. Et on va donc mettre en place un scénario qui va être appliqué par le cerveau, entre guillemets, de ce vaisseau qui va devoir jouer la partition qu'on lui a transmise auparavant. Alors, les principales étapes de l'atterrissage de mars 2020 a été donc détaillée par la NASA et on nous explique en nous donnant un petit minutage que au bout de 28 secondes, par exemple, Mars est en vue, donc la capsule, elle va se séparer de son enveloppe de panneaux solaires. À 40 secondes, le vaisseau qui transporte Perseverance entre dans l'atmosphère martienne. Et donc, c'est là qu'il doit passer en quelques minutes, en très peu de temps, d'une vitesse de 20 000 km/h à presque zéro. Ensuite, comme il est solidement attaché, le rover et son vaisseau sont conçus pour pouvoir résister aux vibrations au cours du voyage. Et la manœuvre, justement, périlleuse de cette séquence qui va permettre de descendre et de faire atterrir ce rover sur Mars. on arrive, on avance un peu, le cratère, ce fameux cratère de G0, il n'est plus très loin, le parachute supersonique est ouvert. Alors maintenant, la descente, elle peut se faire à vitesse réduite, et puis la capsule va s'ouvrir. Le rover, il a les pieds dans le vide, et quelques instants plus tard, l'engin qui va le porter se détache du vaisseau. Et tout ça, ce vaisseau, lui, va s'écraser des centaines de mètres plus bas. Mais il est largué, justement, et il est largué, ce rover. Il y a des rétrofusées qu'on va pouvoir allumer. Et c'est parti, comme ça, pour une petite balade au-dessus de la région où doit justement atterrir ce fameux rover Perseverance. Et quand la zone d'atterrissage est en vue, eh bien, il va, cet engin porteur, descendre le rover avec des filins. Et quand Perseverance touche le sol, eh bien, les filins ils vont sauter aussitôt. Et donc, celui, l'engin porteur, il va s'éloigner parce que lui, il va aller s'échouer aussi dans un endroit qui ne va pas mettre en danger le rover. Et le rover sera posé, pouf, comme ça, délicatement. C'est tellement joli et agréable. Perseverance est donc livrée. Il reste plus ensuite qu'à vérifier son état de fonctionnement, bien évidemment. Et puis viendront les premières images de son environnement, des images de lui-même, afin de pouvoir essayer de voir visuellement si tout va bien. Puis les premiers tours de roue, les premières mesures météo, le déploiement du petit hélicoptère évolutionnaire qui va l'accompagner, ainsi de suite. Et après, hop, c'est parti pour pouvoir essayer de récupérer des données sur Mars. Mais voilà, ces 7 minutes de terreur, eh bien, c'est ce qui a été présenté par la NASA pour expliquer justement ce qui va se passer pour ce rover Perseverance qui va atterrir sur Mars dans quelques jours. Bien évidemment, nous suivrons l'actualité de Perseverance parce que là, nous sommes en train de vivre une étape importante, bien sûr, de la colonisation de Mars, puisqu'on nous parle de ça. En tout cas, c'est une véritable première étape intéressante et importante. C'est ce que nous a présenté, bien évidemment, la NASA. Biotine, tous les samedis entre 12h et 13h, parle de l'actualité scientifique, mais vous propose aussi un peu de pause musicale, puisque ça fait du bien. Et on va écouter, alors je suis tombé sur la liste de Graphite, la playlist de Graphite, je suis tombé sur Hubert Félix Thiéphaine, que je n'ai pas écouté depuis 1957, je crois. Et ça va être l'occasion de pouvoir le redécouvrir sur l'antenne de Graphite. À tout de suite.
Dans la ruelle des morts. viennent de Marve les automnes quand sonne l'heure de nos folies. J'ai comme un bourdon qui résonne au clocher de ma nostalgie. Les enfants cueillent des immortels, des chrysanthèmes, des boutons d'or. Les deuils se ramassent à l'appel en bas, dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts. Dans la ruelle des morts.
Quel plaisir d'écouter Hubert Félix TFN sur l'antenne de Graphite avec la ruelle des morts. Vous écoutez Biotine tous les samedis sur Graphite. Alors maintenant, Graphite, vous l'écoutez partout où que vous soyez, même sur Mars. Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Le Facebook Live pour ceux qui nous suivent, bien sûr, en direct sur la page Facebook de Graphite. Et également la bande FM 94.9. L'appel aux dons se poursuit. Donc n'hésitez pas à nous accompagner, à nous aider également si vous aimez notre radio, si vous aimez nos programmes, si vous aimez notre curiosité. Eh bien, vous pouvez nous aider justement en faisant un don. Et pour cela, vous vous rendez directement sur le site internet de Graphite, graphite.net, pour pouvoir justement nous aider à pouvoir poursuivre nos activités, à vous proposer des émissions de qualité, bien évidemment. J'espère que quand on parle d'émissions de qualité, on parle de Biotine. On va essayer de tenir le niveau de qualité de l'ensemble des émissions de Graphite. En parlant de l'actualité scientifique, on était sur Mars, on va revenir sur Terre et on va revenir à cette année 2020 qui était quand même franchement pénible. On en avait un peu ras-le-bol et on avait envie qu'elle se finisse un peu vite. Hein. On n'en pouvait plus au mois de décembre. On s'est dit, mais bon, là, pourvu que ça se passe vite cette année 2020, on aurait voulu essayer de raccourcir le temps si c'était possible. Alors, on ne pouvait pas, mais la Terre, oui, parce que la Terre, elle a mis tout en œuvre, elle, pour y parvenir. Elle s'est mise, en fait, à tourner un peu plus rapidement que d'habitude. Et jusqu'alors, le record du jour le plus court était détenu le 5 juillet 2005. Notre planète avait alors tourné sur elle-même en 1,05 millisecondes de moins. Ce qui est quand même vraiment, c'est un chouïa, hein, c'est pas grand-chose, mais en tout cas, ça a quand même une importance. Et il y a 86 400 secondes en moyenne pour un jour sur Terre. Et donc là, sur ces 86 400 secondes, il y a 1,05 millisecondes en moins. C'était le 5 juillet 2005. Et en fait, depuis 15 ans, bon, ça allait. Et en 2020, on s'est rendu compte que ce record qui date il y a 15 ans, il a été battu 28 fois par la Terre. Et justement, le nouveau record a été établi le 19 juillet dernier, un record avec un jour plus court de 1,4 millisecondes. Alors, pas de quoi s'alarmer, il y a un certain nombre de circonstances qui peuvent faire varier légèrement la vitesse de rotation de la Terre, les mouvements de son cœur, de ses océans, de son atmosphère, il y a d'autres choses également. D'ailleurs, à 27 reprises depuis 1972, il a fallu recourir à ajouter une seconde intercalaire pour essayer de réajuster le temps astronomique et le temps donné par les horloges atomiques. Et en 2016, on en avait parlé dans cette émission d'ailleurs, on avait rajouté une seconde à la fin de l'année 2016. C'est-à-dire qu'on avait fêté minuit une seconde plus tard. C'était donc en 2016 pour pouvoir essayer de rattraper ce temps, comme ça va plus vite. Mais à l'heure où la communauté internationale se questionne sur le bien fondé du principe pour la première fois, les scientifiques se demandent s'il va falloir cette fois-ci encore retirer une seconde intercalaire parce que on se dit qu'en 2021, les scientifiques attendent que la Terre tourne au moins aussi vite. Et du coup, on va peut-être voir si c'est une évolution. Est-ce que c'est une exception pour 2020 ou est-ce que ça devient une évolution ? Et on verra cela. En tout cas, selon leurs calculs, eh bien, cette année 2021, le jour moyen devrait durer 0,07 millisecondes de moins. Ok, et le 9 juillet pourrait marquer un nouveau record, et on verra ça, on suivra ça, avec peut-être la journée la plus courte de l'histoire de notre humanité tout au moins. Sur l'année entière, les horloges atomiques pourraient accumuler un retard de quelques 24 millisecondes. C'est très court, effectivement, mais ça peut avoir des conséquences parfois sur certains calculs et sur certaines technologies qui utilisent justement le temps des horloges atomiques. Mais en principe, le recours à une seconde intercalaire n'intervient que lorsque la différence entre la durée du jour dépasse les 400 millisecondes, ce qui était le cas en 2016. C'est pour ça qu'on avait rajouté cette seconde-là. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça ne devrait pas tarder. En tout cas, voilà, la Terre a accéléré sa rotation en 2020. En fait, le monde ne tourne plus rond, ou alors le monde tourne plus vite. En fait, quelque part, c'est ça. Et on verra si on n'a pas nécessairement bien cerné les causes de cela. Mais en tout cas, on a constaté que ça a duré un petit peu plus vite. À voir pour cette année 2021. On va revenir aussi sur ce qu'on évoquait la semaine dernière, bien sûr, c'est le Consumers Electronics Show. C'est ce fameux grand salon de la technologie électronique qui se passe à Las Vegas. C'est tous les mois de janvier. Il y a des choses formidables qui sont présentées. Alors, bien évidemment, le contexte actuel fait que ce fameux salon s'est présenté à distance, évidemment. Mais en tout cas, il y a eu des choses assez intéressantes qui ont été présentées. La semaine dernière, je vous parlais de ce fameux téléviseur sans fil électrique, c'est-à-dire que du coup, on avait trouvé une solution pour permettre d'alimenter électriquement un téléviseur sans avoir de câble, justement. Alors, c'était un petit téléviseur, mais en tout cas, c'était une technologie totalement innovante qui avait été présentée. Et là, toujours dans ce salon international de Las Vegas, bien évidemment, le contexte sanitaire a été la base de certaines recherches, de certaines innovations. Car comme la pandémie est toujours là, que les spécialistes expliquent qu'il va falloir se préparer à d'autres crises sanitaires de ce type dans les années à venir, on se dit que le masque va devenir un accessoire du quotidien. Et si bien que ce fameux salon s'est aussi présenté sur cette base-là et a donc présenté quelques innovations. Donc, il y a Razer qui a dévoilé son projet de masque de protection certifié, l'équivalent en France de la norme FFP2, qui se compose d'une visière transparente, d'un stérilisateur d'air UV et aussi d'un amplificateur de la voix. Très bien, pourquoi pas. Spécialiste des accessoires pour joueurs au design un peu agressif, et bien la marque le propose dans un boîtier séparé pour une recharge sans fil, c'est ça qui est intéressant. On a des filtres remplaçables, des ventilateurs rechargeables. Le but, c'est de faire un accessoire durable qui ne se jette pas. Et pour qu'il reste en place, le masque est réglable au niveau des oreilles avec des boucles de fixation qui peuvent être nettoyées ou changées. Et à cela, il faut ajouter des petites lampes, des LED. À l'extérieur, elles servent à indiquer l'état de charge, mais on en trouve aussi à l'intérieur du masque, car elles sont là pour illuminer la bouche lorsque la pièce est sombre. Pourquoi pas, ça peut être utile. Sans oublier, bien sûr, ces amplificateurs qui sont cachés dans le masque pour mieux vous faire entendre. Et le niveau sonore sera réglable via une application, tout comme les couleurs aussi, bien sûr, des LED. Alors pour l'instant, il s'agit d'un projet, mais le masque devrait voir le jour courant de l'année, hein, apparemment, en 2021, on pourra vraiment voir cela. On en trouve aussi d'autres solutions, mais donc ce ne sera pas le seul objet de ce genre présent sur le marché, parce qu'il y a LG également, la marque LG qui avait pris les devants avec un masque purificateur d'air qui avait été dévoilé en août dernier, qui avait déjà été testé en Asie. Mais on se dit que justement, il faut essayer de se positionner sur ce marché, parce que si la crise sanitaire va un petit peu perdurer, il ne faudrait pas que... Enfin, il faut trouver une solution économique. Donc, du coup, on essaye un petit peu de se caler à ce marché-là. Il y a eu aussi un masque anti-Covid Bluetooth. OK, alors, fallait s'y attendre, bien sûr. Et c'est un masque certifié FFP2 et lavable qui sera en vente notamment sur Amazon pour $50, nous dit-on, avec des écouteurs Bluetooth pour passer des appels sans enlever son masque. tout en étant audible avec son interlocuteur, les écouteurs proposent des fonctions classiques d'un casque sans fil, bien évidemment, avec la possibilité de lancer ou de mettre en pause sa musique. Ok. Et puis, on a vu d'autres masques également, un petit peu innovants en termes de notions ou de, comment dire, de données qu'on souhaitait avoir sur la qualité de l'air et sur les données respiratoires de l'utilisateur. Et donc, c'est un modèle qui fonctionne avec une application pour smartphone qui permet de suivre les données respiratoires et qui affiche également les polluants qui sont bloqués par le filtre du masque. Donc on sait un petit peu plus dans quel environnement on évolue. C'est un petit peu cher, $150, nous dit-on. Et le concepteur met également en avant son utilisation dans des environnements pollués comme en ville, bien sûr. C'est-à-dire qu'on est là dans une application autre que la simple crise sanitaire liée à cette pandémie. Bref, le Salon international de Las Vegas nous propose des solutions technologiques au niveau des masques parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait de l'argent à se faire là-dessus. Ils ont peut-être raison après tout. Et voilà, on va essayer de développer des technologies un petit peu performantes pour qu'on puisse mettre son masque et le garder toute la journée avec douceur et bonheur, tout en continuant à téléphoner et ainsi de suite. Voilà, on va essayer de joindre l'utile à l'agréable, bien évidemment, étant donné que pour l'instant, on n'a pas nécessairement trouvé de grandes solutions qui nous permettent de pouvoir traverser sans encombre cette crise sanitaire. On va continuer à écouter un autre titre sur l'antenne de Graphite et on poursuivra l'actualité scientifique. On va parler des animaux. Pas nécessairement dans une phase un peu réjouissante, mais c'est aussi ça la science. À tout de suite sur l'antenne de Graphite. Other Lives avec Desert sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison, on parle très souvent d'articles scientifiques, de recherches médicales, essentiellement menées sur des animaux et notamment sur des souris. Alors il y a un article qui nous dit un petit peu ce qu'il en est précisément. Il y a un grand nombre, bien sûr, d'études scientifiques particulièrement en biologie et en médecine, qui sont menées chez des souris. Et elles représentent à peu près entre 95 et 99% des animaux de laboratoire. C'est donc énorme. Et selon une nouvelle étude parue récemment dans la revue Scientific Reports, on considère qu'il y aurait à peu près plus de 110 millions de rats et de souris qui seraient sacrifiés chaque année pour des expériences scientifiques aux États-Unis. 110 millions de rats et de souris tous les ans. Alors, curieusement, il n'existe aucun comptage officiel, en fait, parce que on a appris que tout ce qui était rats et souris était exclu d'un acte fondateur qui avait été mis en place pour protéger les animaux de laboratoire des expériences douloureuses et cruelles. Alors, effectivement, si on ne recense pas tout, on a des chiffres un peu tronqués. L'auteur de l'étude est Larry Carbone, a donc extrapolé à peu près ce chiffre à partir des données officielles qui ont été recensées. Officiellement, on en est à peu près à 800 000 mammifères sacrifiés et recensés justement pour l'année 2018 par l'Animal Welfare Act, c'est-à-dire cet organisme qui va justement essayer de protéger les animaux de laboratoire. 800 000 mammifères. Donc, comme on sait que tout n'est pas déclaré, on fait une extrapolation et on arrive donc à ce chiffre de 110 millions. Alors l'estimation est toutefois contestée par d'autres chercheurs. L'organisation Speaking of Research, qui milite pour le bien-être animal dans les laboratoires, estime que le nombre de souris utilisées chaque année serait jusqu'à 25 millions, quand même beaucoup. Il y avait une autre étude qui a été menée il y a quelques années qui avait estimé cette fois qu'on en était à près de 200 millions, comme quoi on ne saura jamais le chiffre en fait, mais un chiffre qui inclut les souris sacrifiées pour les expériences, les lignées génétiquement modifiées, les souris élevées à des fins scientifiques, mais gaspillées entre guillemets sans être utilisées. Et en fait, il y avait aussi une autre association, l'association PETA, qui avait également noté une augmentation de 73% de l'utilisation d'animaux de laboratoire en 15 ans à partir des données qui émanaient des laboratoires bénéficiant de fonds publics. Bref, le mythe de la fin de l'expérimentation animale a donc du plomb dans l'aile, parce que si on estime à 110 millions de souris et de rats utilisés chaque année aux États-Unis, on est uniquement aux États-Unis, on ne parle pas de ce qui se passe ailleurs, ça veut dire qu'on est encore très très loin d'aboutir à une baisse significative du nombre de ces souris utilisées. Ça ne va pas s'arranger avec l'épidémie de Covid-19, parce que les études préliminaires, elles passent toutes par des modèles animaux. Donc effectivement, c'est pas prêt de baisser. La question de savoir, est-ce qu'il faut que ça baisse ? Il y a un moment, il faut se poser les vraies questions. Très souvent dans cette émission, on parle donc d'articles scientifiques, médicaux, biologiques, où on est sur des expérimentations faites sur les animaux. Et on a été en mesure d'acquérir des connaissances faramineuses grâce à ces expériences sur les animaux, notamment pour développer des solutions thérapeutiques pour l'homme. Si on a pu aboutir à certaines avancées technologiques et avancées thérapeutiques pour l'homme, c'est grâce à l'expérimentation sur les animaux. Si on considère qu'il ne faut plus faire l'expérimentation sur les animaux, ok, admettons, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, c'est assez difficile parce que du coup, on n'a pas de modèle de simulation qu'on pourrait mettre en place par ordinateur, par exemple. Ça n'est pas possible. Et on n'a pas d'autres modèles qui pourraient permettre d'aboutir à des résultats vraiment intéressants et pour permettre de faire avancer la recherche. La question qu'il faudrait plutôt se poser, c'est qu'en est-il du bien-être de ces animaux en dehors des expériences. Et là, c'est peut-être quelque chose à creuser. Il y a très très peu d'informations parce que c'est une véritable omerta sur ce sujet-là, bien évidemment. Mais si on considère qu'il y a 110 000 110 millions, pardon, même le chiffre est tellement étonnant que 110 millions de souris utilisées tous les ans aux États-Unis pour des exercices de recherche en laboratoire. Ça représente quoi précisément? Qu'en est-il? Qui s'en occupe? Quelles sont les expériences réalisées concrètement? On pourrait essayer peut-être d'avoir un compte-rendu plus détaillé et plus détaillé et un petit peu plus de consistance avant justement d'engager des actions où on dit non, il faut arrêter tout. On peut arrêter tout, ça c'est pas... Pourquoi pas, hein, chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais dans tous les sujets, à chaque fois que l'on décide de quelque chose, il faut anticiper, comprendre, connaître et assumer les conséquences de tout ce que l'on décide de faire. Affaire à suivre, bien sûr. Mais en tout cas, je trouvais cet article intéressant parce que ça nous donnait un petit peu une estimation de la quantité, justement, de ces animaux utilisés. Et donc, comme on l'a dit, à plus de 95%, ce sont des souris et des rats que l'on a en laboratoire. Autre information concernant les animaux, cette fois, c'est les insectes. Et c'est un constat qui n'est pas nouveau. C'est un constat qui est toujours aussi alarmant. Les insectes disparaissent à une vitesse grand V. Entre 1 et 2% des insectes disparaissent chaque année de la planète. 1 à 2% tous les ans. C'est énorme. C'est une nouvelle étude parue dans un numéro spécial de la revue PNAS, qui a été étude, c'est même ce qu'on appelle une méta-étude, c'est-à-dire une étude qui regroupe plusieurs études. Précisément, il y a 56 entomologistes à travers le monde qui ont travaillé sur cette étude et qui ont pu donner des informations un peu synthétisées. Alors, il est difficile quand même d'avoir une idée précise de cette disparition, étant donné le nombre d'espèces concernées. Les scientifiques en ont identifié environ 1 million, mais ils estiment qu'il en existerait au moins 4 à 7 fois plus. Et sur ce sujet, nous en sommes au même point que sur le réchauffement climatique il y a 30 ans. Nous manquons cruellement de données. C'est ce que confirme May Berenbaum, l'un des co-auteurs justement de cette étude. Il apparaît en tout cas que le rythme de disparition des insectes est bien plus élevé que celui des autres animaux. Leur taux d'extinction serait ainsi 8 fois plus rapide que celui des mammifères, des oiseaux, des reptiles. Selon une autre étude qui était parue il y a quelques temps dans une revue Biological Conversation, dans 100 ans, tous les insectes pourraient avoir disparu de la surface de notre planète. C'est ce qu'expliquait dans cette étude Francisco de Sanchez Bayo. Alors, un des exemples relativement bien documenté, c'est celui des abeilles. Il y a une étude publiée il y a 3 ans dans la revue PLOS ONE qui indique ainsi que ce qu'on appelle la biomasse des insectes volants, donc un petit peu la quantité globale des insectes volants, eh bien, cela avait chuté de plus de 75% en une bonne trentaine d'années dans une soixantaine de zones protégées d'Allemagne. C'était une expérience, une étude très précise. En France, depuis 1995, le taux de mortalité des colonies est passé de 5% en temps normal à 30 voire 40%. Chez les papillons, aussi, le déclin est dramatique. La population de papillons a chuté de 39% depuis 1990 dans les pays européens. Je pense que même quelque chose que nous avons nous-mêmes pu constater personnellement, on voit moins de papillons, bien évidemment. Les causes de cette disparition, elles sont multiples, et puis quelque part, elles sont connues. L'urbanisation, les insecticides, les herbicides, les parasites, le réchauffement climatique, la pollution lumineuse, le changement dans le type de culture. Aux États-Unis, par exemple, les champs de fleurs qui apportent de la nourriture riche en nectar aux insectes pollinisateurs, eh bien, ces champs sont transformés en monoculture de soja ou de maïs, c'est-à-dire qu'on est en train de créer d'immenses déserts biologiques. Dans les zones urbanisées, tous ces facteurs se cumulent pour accélérer le déclin des insectes. On cite aussi les incendies de forêt, les tempêtes, les inondations, qui sont de plus en plus importantes, la sécheresse, les espèces invasives, la déforestation, la nitrification des sols. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Alors, il y a quelques espèces qui échappent tout de même à cet apocalypse. Grâce au réchauffement climatique, il y a des insectes qui étaient autrefois présents uniquement dans les zones tropicales qui s'étendent maintenant aux zones tempérées. Les espèces aquatiques ont également pu se développer en Europe et en Amérique du Nord grâce aux législations sur la qualité de l'eau. À l'inverse, des insectes en général, eh bien, ces espèces aquatiques verraient leur population augmenter de 1% selon une étude parue il y a quelques mois. Bref, ces 30 dernières années, nous avons dépensé des milliards de dollars pour trouver de nouveaux moyens de tuer les insectes. En comparaison, bien peu a été fait pour les protéger. C'est ce qu'explique Doug Talamy, entomologiste à l'Université de Delaware. Alors, heureusement, les choses sont en train de changer. On nous donne quelques exemples. En Allemagne, l'Allemagne s'est dotée d'un plan à 100 millions d'euros pour la protection et le suivi des insectes. C'était en septembre 2019. L'Union européenne a banni plusieurs insecticides et herbicides dangereux, comme les néonicotinoïdes. Et puis, il y a d'autres pays, comme en Suède ou au Costa Rica, qui ont pris des mesures de recensement et de protection. OK, très bien, il y a des choses qui existent. Mais en tout cas, le constat est alarmant. Entre 1 et 2% des insectes disparaissent chaque année. C'est un déclin. On assiste à quelque chose d'affolant et on ne fait rien. Et je pense qu'on est totalement impuissant et c'est totalement inquiétant. Voilà, je vous ai bien plombé l'ambiance, je trouve. Mais rassurez-vous, on va écouter un titre. Et puis après, j'adore le titre de l'article qu'on évoquera tout à l'heure. Il y a des champignons hallucinogènes qui poussent dans les veines d'un patient un peu bizarre. Je vous explique ça juste après avoir écouté Ted Lafro sur l'antenne de Graphite.
J'attends que le glaive de la justice s'abatte, mais quand le voile se lève, l'injustice s'invite et soulève dans chaque voix, chaque verdict, les débats d'opinion publique. Présenté en idéal vindicte et pollué par les articles, certains militent pour que le sang gicle, d'autres s'indignent d'un jugement trop magnanime. On s'empresse de te désigner coupable, alors que tu n'es que présumé innocent, victime incapable. La presse unanime fait son résumé, complice une décision de justice à la hauteur du préjudice. Ça laisse des séquelles, cette haine qui se noue en peur de nous parler. Il n'y a pas si longtemps, Roger Jiquel, aux 20h, quand tout se crie au dernier supplice, au lynchage, au milieu d'une foule nombreuse, les yeux pleins de rage, des avifs, le sang coule, une saison bien heureuse. Mais à la lisière du bois, il y a toujours l'erreur judiciaire, cette folie justicière qui nous renvoie à jadis, hier, ça pouvait être ton dab, ton fils, et puis toi aussi, monsieur Fomar, Radat, Patrick Dill, c'est surtout Christian Ranucci.
Je lève le glaive de l'injustice face aux idées conservatrices, inutile de te dire qu'ils ignorent tout mon préjudice. La clémence des verdicts ne laisse rien à l'optimisme, quand la douleur qui est la mienne, tous au bord du précipice. La pieuvre déploie ses tentacules, l'odeur du sang les excite, cette véhémence qu'elle véhicule n'agit que par principe, esprit vengeresse ou altéré, aucun recul pour tempérer, juste la haine, la bave aux lèvres, à chaque fait divers apeuré, c'est plus fort que moi, je peux pas me taire, j'y vais de mon commentaire, atteint d'une maladie qu'on appelle folie populaire, quand le jury délibère, ce n'est jamais assez sévère, on voit que la peine de mort est non le spectre de l'erreur judiciaire.
Beaucoup en jette le haut cri, depuis qu'elle a été abolie, mais peut-on prendre le risque qu'un innocent paye le prix? C'est vrai, l'irresponsabilité est devenue le dernier cri d'une société dont les facultés sont complètement abolies. Les psychiatres et les japes ordonnent une ordonnance de non-lieu. Te voilà là tout seul, le procès n'aura jamais lieu. L'envie de se faire justice soi-même, quand personne ne comprend la douleur qui est la tienne, la vie ne vaut rien si ce n'est qu'une peine de 15 ans, bout de 15 ans parfois avant. Et quand c'est pour bonne conduite, le voilà sans suivi ni traitement, il devient ce récidiviste. Tu te fais juge d'application des peines pour qu'elles s'appliquent à la lettre. Personne n'entend, il ne voit rien quand une femme meurt sous les coups de son mec après les mains de main courante. Les plaintes restaient lettres mortes. Je m'alarme d'une justice trop lente. La société n'a plus d'escorte.
La pieuvre déploie ses tentacules. L'odeur du sang les excite. Cette véhémence qu'elle véhicule n'agit que par principe. Esprit vengeresse ou altéré. Aucun recul pour tempérer. Juste la haine, la bave aux lèvres. À chaque fait divers apeuré. C'est plus fort que moi, je peux pas me taire. J'y vais de mon commentaire. Atteint d'une maladie qu'on appelle folie populaire. Quand le jury délibère, ce n'est jamais assez sévère. On voit que la peine de mort est non le spectre de l'erreur.
Avec les plombs, tes mains se crispent face à l'ultime provocation. L'impression d'entendre le même disque l'emporte sur l'intime conviction. Sous pression, tu optes pour un moyen plus expéditif. En te faisant justice, tu justifies, rends légitime leur théorie laxiste qui recule, te réacculer. Tu viens de basculer en cellule, t'as trop de haine, le cumul des peines n'est pas stipulé. La pieuvre déploie ses tentacules et vient stimuler l'esprit vengeur adulé qui avale des couleuvres sans ravaler cette colère qui nous fait capituler. Celle dont on est tous porteurs, violents comme porteurs. La cohorte vend cette foule, c'était vendeur, je suis preneur. Et les préjudices qu'ils subissent, entre clémence et durcissement, pousse à croire qu'il n'y a plus de justice à chaque verdict, son rugissement.
La foule crie à mort.
La pieuvre déploie ses tentacules, l'odeur du sang les excite, cette véhémence qu'elle véhicule n'agit que par principe, esprit vengeresse ou altéré, aucun recul pour tempérer, juste la haine, la bave aux lèvres, à chaque fait divers apeuré, c'est plus fort que moi, je peux pas me taire, j'y vais de mon commentaire, atteint d'une maladie qu'on appelle folie populaire, quand le jury délibère, ce n'est jamais assez sévère, on voit que la peine de mort est non le spectre de l'erreur judiciaire.
Du sang les excite.
Le glaive de l'injustice, pardon, Ted Lafro sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur Facebook Live, enfin vous nous suivez sur Facebook Live, vous avez bien raison, graphite.net, 94.9, il y a tous les, maintenant tous les supports sont possibles. Vous suivez l'actualité de Graphite, bien sûr, sur la page Facebook. Et puis, vous pouvez bien sûr continuer à nous aider. N'hésitez pas, la campagne de dons se poursuit. Si vous souhaitez voilà, apporter votre contribution et nous permettre de pouvoir continuer à vous proposer des émissions de qualité et de pouvoir également avoir, d'un point de vue technique, des choses un petit peu plus performantes, aidez-nous et participez à cette campagne de dons. Pour cela, vous vous rendez sur le site internet de Graphite, graphite.net, et on vous en remercie par avance, bien évidemment. On va terminer cette émission avec cet article un peu, voilà, un peu loufoque. Les gens se demandent parfois qu'est-ce qui leur passe derrière la tête, notamment celui-ci. Ça concerne des champignons. Alors, on le sait, bien évidemment, manger des champignons peut entraîner la mort, bien sûr, mais se les injecter dans les veines, c'est tout aussi dangereux. Oui, sûrement. En tout cas, il l'a appris à ses dépens, hein, ce patient qui a tenté de s'inoculer des champignons hallucinogènes. C'est un article qui a été publié en décembre dans la revue Journal of the Academy of Consultation Psychiatry. Psychiatrie, tu m'étonnes. Effectivement, je pense que c'est dans ce domaine-là. Et ça rapporte ainsi le cas d'un trentenaire admis à l'hôpital dans un état grave de confusion. En fait, cet homme souffre de troubles maniaco-dépressifs et il va donc chercher des pistes d'automédication pour essayer de traiter ses épisodes dépressifs. Et il tombe un jour sur des articles qui vantent les mérites du microdosage de LSD et de psilocybine. C'est l'ingrédient actif des champignons hallucinogènes. Et selon de nombreuses études, eh bien cette fameuse psilocybine est connue pour être efficace contre la dépression et l'anxiété. Ok, alors habituellement, bien sûr, les champignons, on les consomme sous forme orale, hein, on les mange frais, séchés, cuits, bouillis dans de l'eau pour réaliser une infusion par exemple. Et alors, allez savoir pourquoi, lui il s'est dit, mais tiens, je vais m'injecter l'infusion directement dans les veines. Oui, ça sera peut-être plus efficace. Et il s'est dit, il est quand même malin, il dit, bah attends, je vais d'abord filtrer mon infusion avec du coton. Et donc du coup, il filtre l'infusion et il récupère donc cette espèce d'infusion filtrée. Et puis, il se met ça dans les veines. Et après, bah, il commence à se sentir mal. C'est-à-dire qu'il est atteint de léthargie, de jaunisse, de diarrhée, de nausée. Il commence à vomir du sang. Alors, il est découvert par sa famille. Il est totalement amorphe. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la famille se dit, mais il faudrait peut-être quand même appeler les urgences. Donc, on l'emmène à l'hôpital. Et ce jeune trentenaire, à l'hôpital, il est dans une confusion totale. Il est incapable de répondre à la moindre question. Il souffre, à ce moment-là, d'une insuffisance rénale et une insuffisance respiratoire aiguë et aussi d'une grave atteinte cardiaque. Il a coché toutes les cases, ce mec-là. Et les médecins découvrent alors que le patient souffre d'une infection bactérienne et d'une infection fongique. Une infection fongique, donc fongique, ça veut dire champignon. En fait, les champignons qu'il s'est injectés, ils ont commencé à totalement proliférer directement dans son sang, ce qui entraîne un choc septique. Les analyses révèlent la présence de psilocybine justement dans le sang. C'est-à-dire que l'espèce qu'il s'est injectée est en train de pousser dans son sang. C'est ce que décrivent les médecins dans leur rapport. Alors, il est immédiatement placé sous traitement antibiotique et donc traitement antifongique. Il est intubé pour faire face à la détresse respiratoire. Il va passer 8 jours à l'hôpital, dont 8 en soins intensifs. En fait, ce n'est pas le premier incident lié aux champignons hallucinogènes. Il y a un autre cas qui date de 1985. Un homme qui s'était injecté des champignons hallucinogènes a déjà été recensé dans les littératures scientifiques et il était victime de vomissements, de douleurs, de fièvre. Il avait pu se rétablir finalement relativement assez rapidement. Ok, et beaucoup plus proche de nous, parce qu'on se dit, mais ça, c'est à l'étranger, chez nous, pas du tout. Eh bien, en fait, si, en 2018, c'est un jeune Lyonnais de 18 ans qui s'est jeté d'un balcon après avoir consommé, cette fois directement en les gobant, en fait, des champignons magiques, alors qu'il se trouvait dans un état d'excitation anormal. La victime avait consommé environ 5 grammes de champignons séchés. C'est une dose qui correspond à la limite supérieure de la dose habituelle pour un usage récréatif, nous dit-on. Il avait un petit peu forcé sur le champignon. La psilocybine, justement, elle est pourtant considérée comme relativement sûre par rapport à d'autres antidépresseurs aux forts effets secondaires. Elle pourrait être bientôt autorisée comme médicament aux États-Unis dans le traitement contre la dépression, nous dit-on. Alors, il est en revanche, bien évidemment, fortement déconseillé d'en consommer en automédication, que ce soit en omelette ou que ce soit, bien évidemment, en intraveineuse. Mais voilà, je ne sais pas. Il y a des moments où le monde... Alors, la Terre tourne plus vite et le monde, comme je vous l'ai dit, ne tourne pas rond. Enfin, il y a un moment, on se demande qu'est-ce que... Enfin, il devait vraiment être dépressif pour se dire « Allez, tiens, je vais m'injecter une infusion de champignons hallucinogènes dans les veines. Bah, » je pense qu'il a compris la leçon, bien évidemment. Voilà, c'était un petit article que l'on trouve également. Faut avoir un petit peu de... Comment dirais-je ? De bon sens, hein. Mais c'est ce que je vous ai souhaité, rappelez-vous, en début d'année 2021, pour la première émission de Biotine, cette année 2021, je vous ai dit, mais il nous faut une année pleine de bon sens. C'est ce que je vous souhaite, une année pleine de bon sens. Et le bon sens, on l'aura sur l'antenne de Graphite samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'actualité scientifique, sur graphite.net pour ceux qui nous écoutent, soit en direct, soit en différé. Je rappelle que vous avez la possibilité de pouvoir récupérer les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr. Et vous nous suivez sur la bande FM 94.9 pour ceux qui habitent l'Aisne, l'Oise et la Somme, et puis bien sûr Facebook Live pour ceux qui nous suivent grâce à la caméra et à la réalisation et l'habillage magnifique de Mathéo. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne journée et je vous remercie de rester fidèles à Graphite. À bientôt. Au revoir.